RTL Matin, laissez-vous tenter.
Laissez-vous tenter.
Un laissez-vous tenter un peu exceptionnel ce matin, puisqu'on a un invité, toute la bande est là, certes, évidemment, mais on a un invité qui est Bernard Werber. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Werber pour son nouveau roman, Les Papillons, Le Papillon des Étoiles. Je sais pas pourquoi j'en veux plusieurs, il y en a qu'un. chez Albin Michel. Bernard Werber, un livre sort avec votre nom dessus et ça se vend toujours très bien. Il y a une sorte de rapport de confiance, vous savez pourquoi?
D'abord, j'en sais rien s'il va se vendre bien celui-ci, il vient juste de sortir.
C'est bien parti quand même.
Je crois que je propose quelque chose de nouveau et qui sort un peu de la crise habituelle. C'est-à-dire, là par exemple, c'est un livre qui raconte comment l'humanité pourrait quitter la Terre pour recréer une nouvelle humanité ailleurs. Je crois pas qu'il y ait d'autres auteurs qui fassent ça actuellement.
Mmh. C'est parce qu'il y a une histoire, peut-être. On se dit toujours que le roman français manque de belles histoires.
C'est vrai que le roman français est un peu envahi par les autobiographies parisiennes. Et c'est un peu bien d'ouvrir une porte, d'ouvrir une fenêtre qui aère un peu le système, quoi.
Bernard Lehu, on tente le mini-résumé.
Là, on y va, tout de suite.
Ouais. Mini-résumé.
Alors donc, la Terre, notre pauvre vieille Terre ne tourne plus très rond. Et en effet, un vaisseau part au-delà de notre galaxie pour assurer la survie de l'espèce. Ce vaisseau s'appelle le Papillon des Étoiles. Cette planète vers laquelle il se dirige, qui a toutes les caractéristiques de la nôtre, se trouve à des millions de kilomètres. Le voyage va durer 1000 ans. À bord, 144 000 passagers, tous regroupés pour assurer la survie de l'espèce, le renouvellement des générations jusqu'à l'arrivée à bon port et coloniser cette nouvelle planète. La propulsion est photonique. Vous nous direz ce que c'est. Je crois que c'est à partir des particules de lumière qui sont la seule matière dans le vide de l'espace. Et vous renouez, il faut le dire tout de suite, avec un récit de pure science-fiction qui rappelle fortement et avec beaucoup de plaisir pour le lecteur, Jules Verne. Donc ce matin, nous recevons Bernard Jules Werber.
C'est du Maurice Dibos. C'est Isabelle qui vous l'a soufflé, celle-là.
Christophe, figurez-vous, je suis capable de les trouver tout seul, contrairement à ce que vous croyez.
Alors, Bernard Werber, je vous présente le reste de l'équipe. Nous avons là Stéphane de Pasquale qui va nous donner quelques conseils de lecture pour les enfants.
Voilà, ce vendredi c'est jeunesse. Pour nous, j'ai pour les enfants de 4 à 15 ans un conte, une initiation à la peinture, un ouvrage sur le ciné qui fait peur.
Et Isabelle Morini-Bos qui va nous donner les programmes télé.
Et je vous fais le serment que je ne parlerai pas de polar aujourd'hui. J'ai coup de cœur et coup de gueule. C'est une fourmi que vous avez, Bernard Werber, sur votre verre.
Une fourmi en ambre. Ça porte bonheur.
Allez, on envoie la pub. Bernard Werber avec nous. On entre plus avant avec Bernard Lehu dans ce bouquin, Le Papillon des Étoiles chez Albin Michel, qui sort ces jours-ci.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Il est 9h07 sur RTL et Bernard Werber est avec nous qui vient d'écrire Le Papillon des Étoiles chez Albin Michel. Alors Bernard Lehu nous a résumé l'histoire il y a une poignée de secondes. C'est donc 144 000 terriens qui s'embarquent à bord d'un vaisseau gigantesque pour aller vers une étoile qui est censée pouvoir les accueillir. Ils vont mettre 1000 ans à faire ce parcours. Est-ce que c'est un conte, c'est une allégorie ou est-ce que c'est quelque chose de réaliste?
Alors d'abord... oui et oui. C'est un conte, et même je vais même dire un truc aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un conte philosophique. C'est-à-dire que c'est pas du tout technologique, c'est pas du tout froid. L'idée, c'est, j'avais cette vision d'une femme à la tête d'un gouvernail avec des voiles remplies de lumière. Et ça, c'est la vision depuis le début qui m'a porté à écrire ce livre.
C'est ça le moyen de propulsion du papillon, dans le ciel.
Mais alors, c'est un moyen réel. Donc,
scientifiquement, ça existe, cette propulsion photonique, donc à partir des particules de lumière. Aujourd'hui, on pourrait éventuellement l'envisager.
Alors, tel que j'ai conçu mon voilier dans le livre, dans Le Papillon des Étoiles, il faut voir quand même que la voile fait la taille pratiquement de l'Australie.
Oui. C'est-à-dire, rien ne vous fait peur, Bernard Werber. C'est ça tout le charme avec vous.
Mais le vaisseau, tel quel, 32 km de long, qui tourne avec une gravité interne et donc ses voiles gigantesques grands comme un continent, est constructible. C'est-à-dire que c'est qu'un problème d'argent. On pourrait faire un vaisseau qui traverse tout l'univers pour aller rejoindre une autre étoile à 2 millions d'années-lumière.
Voilà, c'est ça. Alors, d'où le parallèle que je faisais tout à l'heure avec Jules Verne, puisque dans les romans de Jules Verne, c'était également de l'anticipation, mais aussi très réaliste, très faisable, réalisable. Jules Verne, c'est une bonne référence pour vous? Vous voudriez être le Jules Verne du 21e siècle?
C'est lui qui a posé les règles du jeu, à savoir explorer l'inconnu. Maintenant, le problème, c'est qu'à l'époque de Jules Verne, on pensait que la science allait nous sauver. Et moi, ce que je raconte dans Le Papillon des Étoiles, c'est qu'il faut d'abord changer de mentalité et Sinon, la technologie ne sert à rien tant que dans nos têtes, ça n'a pas bougé.
Alors, parmi les raisons de votre succès, je crois que ça, on ne le souligne pas assez, c'est l'humour qu'il y a souvent dans vos livres. Et alors là, à l'intérieur donc de ce vaisseau immense, ben, c'est, ça ressemble à une espèce de Koh-Lanta à l'échelle de l'univers.
Oui, il y a toutes sortes d'animaux, il y a un lac. Y a...
Et puis la lutte pour la survie, parce qu'au début, c'est une société utopiste, et puis un peu à la fois,
ben,
toute l'histoire de l'humanité va se rejouer avec les drames, les guerres, les jalousies, les meurtres.
On est en passe.
C'est un Koh-Lanta hard.
Ah, mais de toute façon, l'humour est indispensable. D'ailleurs, il y a un comique officiel à l'intérieur du vaisseau, oui. Parce qu'à un moment, ils s'aperçoivent qu'il y a quand même beaucoup de tension. Recréer un monde nouveau, ça fait que tout le monde est un peu sur les nerfs. Et il y a un type qui est là pour faire des blagues en permanence et il crée une sorte de chaîne de télévision, un RTL local à l'intérieur du vaisseau.
Où RTL le mec, plus.
Il doit sortir des blagues du matin jusqu'au soir pour détendre l'ensemble des gens qui travaillent dans les zones agricoles à l'intérieur du vaisseau.
Alors, au tout début de l'histoire, il s'agit donc de quitter la Terre parce que ça va mal et d'essayer d'aller faire mieux ailleurs. Mmh. Et donc, les utopistes qui montent ce projet recrutent des volontaires. Et alors, il y a un truc, moi, que j'ai eu du mal à suivre. C'est qu'il y en a, il y a beaucoup de candidats. Et moi, je pensais qu'il n'y en aurait pas. Il a besoin de 144 000 candidats pour espérer qu'il y ait un couple qui arrive au final sur cette planète, hein, parce que ça va durer 1000 ans, le voyage, dans ces 2 millions d'années-lumière. Et, ou c'est 20 millions, combien c'est?
20? Non, c'est 2 années-lumière. Oui. Ça fait des millions de kilomètres, mais en gros, bon. Ça fait 1000 ans de voyage.
Et alors, il trouve tout de suite des centaines de milliers de candidats.
Oui, parce que...
Vous croyez que ça se passerait comme ça?
Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail dans le monde. Mais le monde que je décris n'est pas un monde à ce point de science-fiction. C'est-à-dire, quand je dis ça va mal sur Terre, ça va pas beaucoup plus mal que ça va mal actuellement. C'est-à-dire que, globalement, il y a de la pollution, il y a la guerre, il y a du terrorisme, il y a la grippe aviaire. C'est juste, j'ai à peine poussé un tout petit peu les curseurs. Mais je pense que il y a un moment où il faut se poser la question, au fait, si ça va pas, est-ce qu'on a une porte de sortie? Est-ce qu'on a la possibilité d'aller voir ailleurs si on peut pas tout recommencer? Comme nos ancêtres, chaque fois que ça allait pas, ils ont pris un bateau, ils sont allés reconstruire ailleurs, sur notre continent, une nouvelle société.
Alors moi je voudrais qu'on parle un peu de vos lecteurs. 15 millions, c'est le nombre des lecteurs de Bernard Werber en France et dans le monde. J'en ai appelé quelques-uns hier, on va écouter ce...
C'est quoi Bernard, oui. c'est 15 millions par livre?
C'est le total
des gens qui vous ont lu.
Le nombre de livres vendus par Bernard Werber.
Attendez, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que j'ai... énormément le soutien des professeurs dans les écoles qui donnent ce livre, enfin mes livres, pour que les gens qui aiment pas lire se mettent à lire. Et je dois dire que c'est fantastique parce que avoir le soutien des professeurs, ça veut dire que ils vont découvrir tout ce monde. Comme mes professeurs m'ont fait découvrir Jules Verne, d'ailleurs, puisque vous parliez de ça. Et je trouve formidable que le système scolaire soit ouvert à ça.
Alors, pour comprendre votre succès, je crois que c'est intéressant d'entendre ces trois auditeurs dans l'ordre. Enfin, il y a Sébastien, Ayumi et Nadjet.
Je les ai tous achetés, il y en a qui m'ont plu, d'autres moins, mais oui, je dois les avoir tous quelque part chez moi. Il a une simplicité quand il écrit, mais à la fois il parle de choses qui nous concernent tous et qui nous touchent forcément d'une façon ou d'une autre. C'est vrai que on prend pas trop soin de notre terre et qu'il faudrait peut-être se bouger un petit peu, quoi.
Je vais vous avouer que moi je suis pas très lecture à la base. Les seuls livres que j'ai vraiment lus, c'était les livres qu'on m'avait obligés à l'école. Et là, par contre, Bernard Werber, c'est vraiment facile à lire.
Le fait aussi qu'avec ses livres, il y a un côté un peu éducatif, on va dire. Il y a quelqu'un qui arrive à faire passer des messages scientifiques de façon assez simple et donner un apport de connaissances aux gens en utilisant le média qui est le roman, alors que c'est vrai que c'est pas forcément le média auquel on pense tout de suite.
Alors, ils sont tous très jeunes, hein, ces lecteurs et lectrices. Ça, c'est l'une des caractéristiques de votre public.
Oui, peut-être dès le moment où on parle science et spiritualité, c'est vrai qu'on touche un public qui est curieux de tout ce qui est nouveau en science et en spiritualité. Et c'est plutôt les jeunes actuellement, c'est vrai.
Ouais. C'est une manière aussi pour vous de dire, d'entendre ces jeunes qui disent « j'ai lu grâce à Bernard Werber »,
dire
à tous les gens
plaisir.
Qui vous traitent d'écrivain populaire...
Je suis très content. Je suis très content d'être un écrivain populaire. Mozart était un musicien populaire et Jules Verne était un écrivain populaire. Je crois que l'art, pour être efficace, doit s'adresser à tout le monde. Il ne doit pas s'adresser à une élite. Et quand j'écris, j'essaie d'être le plus simple, le plus clair possible. Je peux vous dire, c'est beaucoup plus difficile d'être simple et clair que de faire des grandes phrases compliquées avec des mots complexes. Ouais. Bon, à la limite, moi, ma première version est beaucoup plus littéraire et je la simplifie pour trouver une sorte de clarté et de simplicité qui puisse toucher tout le monde.
Ah, vous réécrivez pour clarifier.
Voilà. Ouais. Alors, pour dégraisser. J'allais dire, voilà, je dégraisse un maximum.
Vous avez parlé il y a un instant de Beaux-Arts, vous permettez l'enchaînement, vous avez une caractéristique, c'est que vous écrivez toujours en musique. Et à la fin de ce livre, vous donnez en quelque sorte la BO du Papillon des Étoiles. Vous citez tous les disques sur lesquels vous avez travaillé. Il y a en particulier celui-ci, je crois que c'est la musique de Jonathan Livingstone, le goéland, hein, le film.
Goéland, ouais. Oui, j'adore ça.
Mais pourquoi ce besoin de musique pour écrire?
Parce que dans la musique, il y a l'émotion. Et il y a le rythme. Donc, j'adapte mon rythme d'écriture par rapport au rythme de la musique. Et voilà, cette musique qu'on entend, ça me fait chaque fois quelque chose, ça me fait un petit frisson. Il y a cette idée d'envol, de liberté, cette... je l'écoute, hein.
Ah, ça y est, je me rends compte que collé, là.
En plus, vous fermez les yeux tout en parlant quand vous écoutez la musique.
Vous savez, l'acte d'écrire en musique, c'est un pur bonheur. Et pour que mon lecteur soit content, il faut déjà que je m'amuse à créer. Moi, quand j'ai vu Jonathan Livingstone et Goéland, j'étais d'abord étonné par cette musique gigantesque. Et je me suis dit, voilà, maintenant, j'ai l'émotion qui correspond à ce que je veux faire.
Vous avez déjà essayé le Vangelis des chariots de feu dans le style, parce que ça c'est un
il y en a plusieurs musiques à la fin.
À propos de ce plaisir d'écrire, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous écrivez essentiellement le matin, et porté par cette musique, il y a un moment, souvent vers la fin de matinée, vous m'avez dit, je suis dans une espèce d'orgasme littéraire. C'est toujours le cas.
c'est un moment assez court, mais c'est plutôt une transe. Et il y a un moment, je ne sais plus qui je suis, ce que je fais, je suis avec mes personnages là-bas. Et si le téléphone sonne ou si quelqu'un rentre, je vais sursauter comme si on me réveillait. Mais je crois que c'est nécessaire pour que le lecteur ait ce plaisir que d'abord je l'ai. C'est-à-dire que j'ai cette transe, cet orgasme, comme vous dites, d'écriture.
Bernard Werber a écrit Le Papillon des Étoiles chez Albin Michel. Il reste avec nous pour la suite de Laissez-vous tenter. Ce sera par exemple les conseils de lecture pour les enfants de Stéphane de Pasquale dans quelques instants.
RTL Matin, Laissez-vous tenter.
9h19 sur RTL, Bernard Werber est avec nous depuis 9h ce matin pour son livre Le Papillon des Étoiles chez Albin Michel. Et avec vous, Bernard, bah écoutez, on va faire le reste de l'émission parce qu'on a plein de choses à vous faire découvrir. Parce que je suis sûr que vous allez être intéressé par ce que va vous raconter Stéphane de Pasquale maintenant. Stéphane, vous avez feuilleté un certain nombre de livres pour enfants et on va commencer par un très beau conte qui va séduire les plus jeunes de 5-6 ans.
Oui, c'est ça. Alors vous faites comme les planètes dans votre bouquin, vous faites tourner.
Merci.
Ok, donc ça devrait a priori vous rappeler quelque chose. C'est l'histoire d'une jeune fille adorable, belle comme le soleil, adorée par son père, détestée par sa belle-mère, harcelée par ses deux demi-sœurs aussi sottes que vaniteuses.
Cendrillon a priori.
Bravo, mais ici c'est une Cendrillon revue et corrigée façon nippone. La belle répond au doux nom de fleur de cendre, elle est donc évidemment japonaise. Ses pantoufles de verre, V-A-I-R, s'appellent des guettas. Elle joue du koto, une sorte de sitar. Mmh. Les dessins d'Indrombi sont vraiment de toute beauté. Et le plus pour moi, quand vous caressez ça, ça donne du mystère et du plaisir. C'est un côté parchemin. Ce qui rend encore ces pages plus douces et
ça
plus mystérieuses.
Ça fait papier de soie presque.
Exactement.
C'est-à-dire, ça a le toucher de la soie.
Alors, obligation. Oui, vous trouvez pas?
C'est doux,
oui,
hein.
C'est beau, non? Je suis en de dire, c'est plutôt les parents qui achètent ce genre de livre pour leurs enfants, mais en fait, c'est eux qui sont intéressés.
Oui, excepté que Cendrillon, on vous l'a jamais lu quand vous étiez gosse?
Si, évidemment.
Et alors?
Ça fait très peur, d'ailleurs. Je trouve que tous les contes pour enfants font extrêmement
Perrault
peur.
Perrault fait peur. Oui, tout surtout. Fait. C'est terrible, hein. Juste une précision.
C'est tellement injuste.
C'est à lire en kimono, hein, fleur de cendre. Et c'est
en mangeant des sushis.
Jeunesse, le prix 12 euros.
On grimpe d'une tranche, Stéphane, tranche d'âge, disons à partir de 9-10 ans, avec un très beau livre d'initiation à la peinture.
Ah, ça m'a énormément plu, tout est dans le titre. Regarde la peinture à travers les siècles. Alors je vous ai mis une.
J'ai vu ce livre,
vous l'avez vu.
C'est pour aider les enfants à comprendre la peinture classique. Et j'ai vu, il y avait une analyse notamment de la Mona Lisa où ils expliquaient réellement comment jouer avec ce tableau.
Alors ce qui est formidable avec lui, c'est que moi finalement j'ai plus grand chose à faire. Donc alors je vais que je fasse le rôle de Christophe.
Non.
Alors il y a donc combien de peintres, Bernard?
Ah oui,
il y en a 18.
Il y en a 24.
Non, 18 en tout. Alors vous avez raison, ce qui est extraordinaire. Reprenez le Da Vinci. Ce qui est formidable, c'est que vous allez ouvrir d'abord...
Le Da Vinci, c'est snob, ça.
Le Da Vinci.
Leonardo da Vinci. De Vinci, comme on disait autrefois.
Voilà. Alors, regardez pour bien comprendre. Vous ouvrez à gauche le tableau.
Intégral.
Intégral. Au milieu, trois détails. Le visage, les mains et un paysage. Mais le plus, vous ouvrez à main droite et vous découvrez avec quelle couleur Leonardo a peint. C'est-à-dire, il y a quoi? Allô, a Bernard, ici la Terre.
Non, c'est marrant, parce que ça me rappelait un souvenir. Moi, quand j'ai vu la Mona Lisa, je me suis dit, qu'est-ce que tout le monde trouve à ce photomaton de l'époque? J'ai fini un jour par, parce que je suis resté longtemps à fixer, j'ai fini un jour par comprendre qu'en fait, son sourire est le sourire de l'intelligence. C'est-à-dire, elle représente l'humanité future. Quand l'homme sera éveillé, il sourira comme ça, c'est-à-dire une sorte de sourire retenu qui inspirera, c'est-à-dire il a tout compris. Et il a un petit air comme ça, elle a un air sympathique. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses à décoder, mais moi, ce que j'ai trouvé dans ce tableau, c'est elle a le sourire de l'intelligence.
Vous pensez pas qu'on pourrait faire un livre à succès avec un tableau comme ça? En partant de ce tableau, ça vous donne pas des idées.
Non, aucune chance.
Je rappelle, regarde la peinture à travers les siècles, ça c'est vraiment mon bonheur du jour, l'éditeur c'est Albin Michel Jeunesse, le prix 18,50€, c'est génial.
Oui, c'est vraiment le même éditeur que Bernard Werber.
C'est pour ça. Voilà. Non mais j'aime bien, chez Albin, ils font des expériences. Moi je leur propose chaque fois de faire des livres avec de la musique, avec des images et tout. Par moments, ils sont un peu rétifs, mais ils y vont quand même. Et là, ce livre-là, c'est vrai, il est très très beau.
Alors, on termine avec un livre qui va plaire aux cinéphiles en herbe, Stéphane.
Oui, là, c'est pour vraiment les plus grands, hein, Christophe. Là, c'est vraiment du 13, 14, 15. La peur au cinéma, c'est le titre. Alors, c'est vraiment le spécial Coucou, fais-moi peur pour les ados. Ça traverse 60 ans de ciné et de frissons. Ils y sont tous. Hein. Vous avez Polanski de la Rosemary's Baby, vous avez Shining de Kubrick. Il y a à peu près une quarantaine d'auteurs. Hitchcock... Murnau, ou alors des choses un peu plus dures, hein, comme Wes Craven, Les Griffes de la Nuit. Mmh. Et ce qui est formidable, évidemment, il y a beaucoup de photos, mais surtout, vous apprenez énormément de choses sur la façon dont ces grands réalisateurs ont dirigé ces scènes de frissons. Hitchcock, je vais le prendre, La mort aux trousses, vous vous en rappelez.
Ah ouais.
Cary Grant, absolument intouchable, avec James Mason. Regardez ce que disait Hitchcock sur ces scènes qui devaient faire peur. Il dit, a priori, si on veut faire peur, la plupart des réalisateurs vont faire ça. C'est une nuit noire, un carrefour étroit de la ville, la victime attend, debout dans le halo d'un réverbère, le pavé est encore mouillé par une pluie récente et il y a un gros plan sur un chat noir. Et ben lui, qu'est-ce qu'il a fait avec La mort aux trousses? Il a fait le contraire, une plaine déserte en plein soleil, ni musique ni chat noir, et tout va se passer alors que Cary Grant court dans les champs de maïs. C'est génial, ce qui prouve que la surprise peut être aussi un élément de peur. Ça, c'est Actes Sud Junior, la Cinémathèque française, 18 euros.
Merci Stéphane de Pasquale.
RTL Matin, laissez-vous tenter.
Merci Bernard Werber.
Merci à vous.
Votre roman, j'en rappelle le titre, Les Papillons des Étoiles. Le Papillon des Étoiles, chez Albin Michel. Merci, bon week-end à tous, gardez la pêche, à lundi.